Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net et animée par l'équipe des Films de la Gorgone et filmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com.
Rappelez-vous février 1974, la famille Lutz fuyait la maison dont ils avaient fait leur rêve. C'était Amityville, près de Long Island. C'était la maison du diable.
Au sommaire, aujourd'hui, une spéciale sortie bouquin durant laquelle nous reviendrons sur deux collections de Faute de Frappe édition, à savoir la collection Une Nuit Avec, et on parlera de Une Nuit Avec Graham Masterton, donc, qui est donc disponible chez Faute de Frappe Édition. Autre collection, la collection Compact Horreur, hein, toujours chez Faute de Frappe Édition. Et là, on parlera de Destination Amityville de David Didlot, qui est la première sortie de la collection Compact Horreur qui n'est pas consacrée à un auteur anglo-saxon. On restera dans les maisons hantées avec Starling House de Alex E. Arrow, qui est paru aux éditions Le Rayon Imaginaire. On ira faire un tour du côté de chez Marest Éditeur pour Balade Irlandaise, le journal de la nature par John Boorman, illustré par Suzanne Morley. Toujours chez Marest Éditeur, on parlera d'un petit livre de poche, on vous en dira plus parce qu'il lance une collection de livres de poche. James M. Cain par François Guérif, qui est une réédition d'un livre paru chez Séguier il y a maintenant plus de 20 ans. Et puis, toujours chez Marest Éditeur, on vous causera de Wanderer, le livre écrit par Sterling Hayden. On vous en dit plus dans quelques minutes. Alors, on ira aussi chez Carlotta Film, qui sort plein de livres sur le cinéma en ce moment, décidément. Et on vous parlera de Golden 80s, un livre de Nicolas Brévière. Alors, le titre complet du livre, c'est Golden 80s, la guerre entre Louis de Funès et Marguerite Duras n'aura pas lieu. J'adore ce titre, voilà. Donc ça, c'est chez Carlotta Film. Après, on ira faire un tour du côté du 9e art avec les envahisseurs. J'ai bien dit les envahisseurs et pas les envahisseurs. Roy Tinnus sort de ce corps. Les envahisseurs, donc, de Marc Dubuisson, paru aux éditions Delcourt et toujours chez Delcourt, mais pour une coédition avec Tonkam. On parlera de l'intégrale de Spirale de Junji Ito. Junji Ito, un mangaka horrifique revenu à la mode ces dernières années, durant l'été 2024, est sorti un numéro d'Atom très très complet sur Junji Ito. L'équipe de Culture Prohibée remercie Christine Leriche, Lucie Mautier, Marc Falvo et Pierre-Julien Marest pour leur aide sur cette émission. Pour causer lecture, je suis accompagné aujourd'hui de Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oublié, co-animateur de Projection Perdue, le podcast de la Chiméra Tech, visible sur YouTube. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes et les envahisseurs qui nous écoutent.
Autre grand lecteur présent dans ce studio, Thomas Roland, dit le loup-garou picard, qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglantes chroniques pour RCA. Bonjour Thomas.
Bonjour Gégé, bonjour Damien et bonjour à toutes les lectrices.
Je vais débuter cette émission, mes chers amis, par un point sur les dernières sorties de Marest Éditeur. C'est aujourd'hui très clairement, je pense qu'on peut dire, l'un des meilleurs éditeurs de livres sur le cinéma en France, avec une véritable cohérence en fait sur le choix des ouvrages publiés, enfin en gros un vrai boulot d'éditeur. Hein. On avait déjà évoqué tout le travail autour de Hitchcock dans une précédente émission. Aujourd'hui, on va causer d'un autre cinéaste mythique, le réalisateur, entre autres, d'Excalibur, Délivrance, Le Point de Non-Retour. Je pense que vous avez deviné de qui je parle.
Pas du tout. John Boorman.
John Boorman, donc, qui vient donc de sortir ses balades irlandaises, Journal de la Nature, un écrit de Boorman qui a été réalisé durant le Covid, en fait, durant le confinement. Alors, Marest avait déjà sorti les mémoires de Boorman, Aventure, son premier roman Tapis écarlate, le travail que lui a consacré Michel Simon avec Boorman, un visionnaire en son temps. Et là, ses balades irlandaises, donc, c'est un livre qui est rédigé, c'est son journal quotidien en fait, qui est rédigé au printemps 2020, pendant le confinement, où il retourne dans son fameux domaine irlandais, voilà, vous savez, ce fameux domaine où il prend des bains, là, l'image est célèbre de Boorman qui va lui-même se baigner dans la rivière qui borde son domaine. C'est un peu un dingue, il a peur de rien, John Boorman. 88 ans au moment où il écrit tout ça, il est au crépuscule de sa vie. Il faut savoir qu'il est avec son fils et sa fille, ce qui fait que il nous parle aussi de sa famille dans ce livre. Alors la maison, il l'a depuis des dizaines d'années, il n'y était pas retourné depuis une quinzaine d'années là, donc c'est, du coup ça, il resserre ses liens avec ce lieu, cet endroit particulier qu'il aime beaucoup, et ça donne un livre très très mélancolique en fait, assez peu consacré au cinéma en fait en tant que tel, mais le cinéma transparaît en fait dans chaque phrase, chaque évocation de cette nature élégiaque et qui passionne vraiment Boorman. C'est un livre par moments presque méditatif, qui est vraiment l'histoire d'un homme qui sait qu'il est près de la fin de sa vie que du début de sa vie, bien évidemment, 88 ans. Et à un moment, il parle de sa brève part d'éternité, par exemple. C'est une très, très, très belle, très, 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 très belle expression. Et le livre, nous rappelle aussi à quel point Boorman est une sorte de maître en son domaine, de maître dans sa forêt de Brocéliande, quelque part, pour celui qui avait fait Excalibur. Donc le livre est en plus vraiment superbement illustré par Suzanne Morlet, puisque les illustrations très fines, très élégantes sont vraiment au service du récit boormanien. Alors c'est un livre assez court, donc il se lit assez vite, et c'est un livre très agréable à lire. Quelque part, malgré son... C'est un livre plein de spleen, mais en même temps plein d'entrain. C'est le livre d'un jeune homme au crépuscule de sa vie. Voilà, j'ai envie de dire comme ça. C'est vraiment un très très beau livre que je vous conseille vivement, et qui donc s'appelle Balade irlandaise, journal de la nature. C'est donc signé John Boorman, c'est illustré par Suzanne Morlet et c'est traduit par Édouard Balinger. On ne parle jamais assez des traducteurs des ouvrages. Alors beaucoup plus imposant, c'est le pavé de plus de 500 pages qui est édité sous la forme d'un beau livre par Marest éditeur. Un format un peu différent de ses autres publications, en taille, en épaisseur, enfin en épaisseur non, mais en taille surtout. C'est un format intermédiaire entre le grand livre et ses formats habituels de beaux livres que nous concocte habituellement l'équipe autour de Pierre-Julien Marest. Et ce pavé là dont je vous parle, il a un titre qui s'appelle Wanderer. Wanderer, c'est le nom du voilier en fait de l'acteur Sterling Hayden. C'est un acteur qui a tourné pour les plus grands. On a pu le voir chez Kubrick, chez Houston, chez Coppola. Et en 1959, il décide. Alors, il est aussi pourchassé par la justice. Il faut le savoir à ce moment-là de son existence. Et il décide avec un équipage de jeunes gens déçus, en tout cas parce que sont devenus les USA. Il décide de prendre la mer. Alors, c'est l'occasion pour cet idéaliste de se raconter à travers cette autobiographie traduite, qui est à la fois donc un journal de bord et une autobiographie qui est traduite là par Julien Guérif et qui est préfacée, excusez du peu, par James Ellroy. Alors, c'est un très étonnant parce que c'est un livre superbe. L'écriture est très très stylisée. Cette introspection dans laquelle se relaie à la fois des impressions de voyage, celle d'un, je vous ai dit, d'un journal de bord, mais aussi d'un autre voyage, d'un voyage en fait presque cérébral pour l'auteur, un voyage aux confins de l'utopie qu'il lance comme ça à la justice américaine, lui qui est pourchassé à l'époque, parce qu'en fait on découvre, alors il parle de tournage, il parle de choses comme ça, mais on découvre aussi c'est idéaliste en fait, parce que c'était vraiment, cet homme était vraiment un idéaliste. Il a été marine, il s'est engagé, il a été combattre auprès des partisans de Tito en Yougoslavie, il a été au Parti communiste américain et il a démissionné, hein, parce qu'il a expliqué qu'il était incapable de comprendre la propagande. Donc il a préféré démissionner et il a été, bien sûr, évidemment, il a été au Parti communiste, donc il a été victime du macartisme, hein, ça, pas besoin de vous faire un dessin. Et quand il écrit ce livre, il est au milieu de sa vie, en fait. Donc, il a encore pas mal d'années à vivre. Il a encore de belles années dans le cinéma devant lui. Et on sent vraiment qu'il est au mi-temps de sa vie et qu'il fait, à ce moment-là, il fait un vrai retour sur à la fois sa vie, ses idéaux, ce qui est devenu, ce que sont les États-Unis, ce qu'ils sont devenus. Parce qu'il y a un constat très amer sur ce que sont devenus les États-Unis aussi. Et en fait, ce livre, au final, c'est une découverte. Parce que, alors Hayden, on sait que Sterling Hayden était un grand acteur, mais là, on découvre plus qu'un grand acteur, on découvre un auteur. Un auteur, un écrivain brillant, hein, dont la plume vire parfois au sublime. C'est incroyable, la forme du livre est superbe. Je vous dis, une écriture très stylisée. Moi, j'ai été absolument sidéré par la qualité de l'écriture de Sterling Hayden. Je vous conseille vivement, enfin pour moi c'est un indispensable, que ce livre, ce Wanderer de Sterling Hayden, qui est donc traduit par Julien Guérif. Alors après Julien Guérif, je demande qui ? Je demande François Guérif, l'illustre.
Je demande le père.
Voilà, je demande François Guérif. Hein. Évidemment, François Guérif, tout le monde connaît, Rivage Noir, directeur de collection littéraire, critique de cinéma français, qui a écrit plein de bouquins, entre autres sur Eastwood, enfin plein de bouquins, voilà. Spécialiste du roman, du film noir, on peut le lire régulièrement dans la revue 813. Éditeur, excusez du peu, découvreur même de James Ellroy, de Denis Lehan. Il a écrit le film noir américain, il a écrit du polar. Et il décide ici, dans un livre donc édité par Marest Éditeur, enfin plutôt réédité par Marest Éditeur, de rendre hommage à un auteur qui s'appelle James M. Cain, qu'on appelle plus fréquemment James Cain en vérité. James Cain qui donc inaugure, non, le titre du livre c'est James M. Cain, hein, très exactement, et ce livre donc inaugure une collection de poches lancée par Marest Éditeur qui s'appelle Marest Bis. Voilà, c'est très sympa, c'est petit livre, petit format, qui tiennent dans la poche et qui sont à un prix très très abordable. Voilà, tout cela pour moins de 10 euros. Et en fait, là, il décide, François Guérif, alors le livre avait été publié initialement en 91, hein, donc il était devenu quasi introuvable, hein, ce livre qui était paru à l'époque chez Séguier. Donc là, on peut enfin lire ce livre qui, quand même, raconte l'histoire d'un type un peu hors norme, hein, qui est quand même l'auteur, tout le monde le sait, du Facteur sonne toujours deux fois. Le fameux Facteur sonne toujours deux fois, qui a été énormément adapté au cinéma, au moins 4 fois, voilà, dont la dernière version, je crois que c'est avec Jessica Lange et Jack Nicholson, il me semble que c'est la dernière de Bob Rafelson, mais qui a donné lieu à toute une série de films, films italiens, films américains d'une grande qualité. Il n'a pas fait que ça, il a fait aussi Assurance sur la mort, par exemple, c'est lui aussi, donc une vraie belle plume du roman noir, qui a d'abord été journaliste, et un journaliste, pas un petit journaliste, en plus un journaliste assez célèbre, et il publie son premier livre, en fait, assez tardivement, à 42 ans. Hein, le Facteur sonne toujours deux fois, c'est à 42 ans que le livre sort. Et puis, cet auteur génial va se retirer du monde durant les 30 dernières années de sa vie. Donc, l'érudit François Guérif, hein, mais ici, tout son talent pour nous faire redécouvrir cet auteur, donc par trop méconnu, parce qu'il est vrai que si Hammett, Chandler, McBain et tant d'autres sont régulièrement cités. Ce n'est pas le cas de James M. Cain. Là, il est redécouvert, il est réhabilité parce que Guérif nous rappelle que il était, malgré qu'il soit anticommuniste, farouchement opposé à la chasse aux sorcières. Il voyait dans la chasse aux sorcières une manœuvre politique, en fait, et qu'il n'avait pas tort, d'ailleurs. Hein. Donc, assez brillant parce qu'il n'était pas du tout communiste, lui, hein. Il était vraiment anticommuniste. Mais le fait de faire le délateur, déjà, c'est quelque chose qui le défrisait. Alors, pas étonnant ensuite, sachant qu'il était plutôt à droite, de savoir que c'est l'auteur préféré, l'un des plus grands auteurs de romans noirs préférés de James Ellroy, bien évidemment, l'homme qui n'est jamais une provocation près. Donc, auteur de Mildred Pierce aussi, hein, c'est pas n'importe quoi, et de Galatée, qui va finir par perdre son mojo quand même. Hein. D'ailleurs, François Guérif n'élude pas cet aspect de la dernière partie, dans la dernière partie de cette bio passionnante, où on voit quand même un James M. Cain à bout de souffle dans sa créativité littéraire, dans ce qu'il pouvait proposer. Et le livre, en tout cas, cette bio qui se lit, qui se dévore très, très, très vite, est pour moi un indispensable pour tous les amateurs de romans noirs et de cinéma, évidemment, de films noirs aussi, parce qu'il travaille aussi, James M. Cain, en lien avec le monde du cinéma. Assez passionnant, assez pertinent. Alors, les trois livres, là, sont sortis chez Marest, qui fait fort, une fois de plus, hein, du coup, avec ces trois livres-là, chez Marest Éditeur. Alors, je rappelle les titres, hein, Ballade irlandaise, Journal de la nature de John Bourman, illustré par Suzanne Morley. James M. Cain, donc par François Guérif, dans cette petite collection Marest Bis. Et chez Marest Éditeur, mais là, on est sur le gros pavé, Wanderer, de Sterling Hayden. Et donc, trois livres indispensables, hein, pour votre culture personnelle, les amis. Écoutez Culture Prohibée. Côté beau livre sur le cinéma, je vais terminer mon tour d'horizon des livres sur le cinéma par un pavé de plus de 700 pages. Ah oui, alors là, il faut être motivé. Alors déjà, le Sterling Hayden était un pavé de plus de 500 pages. Bah là, c'est un pavé de plus de 700 pages, vraiment passionnant, et qui s'intitule « Golden 80s, la guerre entre Louis de Funès et Marguerite Duras n'aura pas lieu ». Panorama de la production des films français 1980-1989. Alors le livre de Nicolas Brévière, bien qu'il y ait bref dans Brévière, gagne le titre de livre avec l'un des titres les plus longs publiés par Carlotta Film. Le livre est très beau, c'est-à-dire que ça fait une sorte de pavé couleur or qui est assez frappant, qui frappe l'œil. Et puis après l'objet en lui-même, il y a le contenu. Et là, sur le contenu, on n'est pas déçu. Hein. Nicolas Brévière, je rappelle, c'est un producteur de films. Donc lui, il s'est plongé dans la décennie des années 80, une période particulière, une période aussi qui est la période de son adolescence, enfin j'y reviendrai après, et une période aussi où il y a eu énormément de bouleversements dans l'industrie du cinéma en France. Et lui-même, Nicolas Brévière, étant producteur, il va s'intéresser plus particulièrement aux producteurs phares des années 80. Alors, le livre, visiblement, il va lui prendre des années et des années de travail, d'écriture, des recherches. Il va avoir de très nombreux entretiens avec tous les grands producteurs de cinéma des années 80. Et le livre, c'est simple, retrace année par année sur 10 ans tous les événements liés au cinéma, avec aussi de la critique ciné, mais c'est pas du tout un essai théorique. C'est vraiment super agréable à lire, parce que le livre est assez foisonnant, il a une forme singulière, mais il travaille la question du cinéma année par année, tout en l'émaillant de telex, par exemple. De telex qui pose, sans analyse du tout, des petits événements qui ont lieu comme ça dans l'année. Et puis, qui rapporte aussi des propos passionnants. Il y a des critiques de films majeurs de la décennie. Et puis, les films de son adolescence, je vous le disais tout à l'heure, les films qui l'ont marqué, donc il va nous parler de Possession, de Zulawski, il va nous parler de Mon oncle d'Amérique, d'Alain René, puis de plein d'autres films comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que il va choisir année par année un producteur qu'il trouve mythique. Alors, il va, par exemple, prendre Jean-François Le Petit, qui produisait quand même le nom de les films de réalisateurs aujourd'hui un peu tous blacklistés, hein. Breya, Kechiche, Doualon, voilà, c'est le type qui a lancé toutes ces carrières là. Il va nous parler d'Alain Roca qui lance lui Éric Rochant et qui produit le monde, son fameux Monde sans pitié, qui va révéler Éric Rochant, qui aujourd'hui évidemment est plus connu des jeunes générations pour son Bureau des légendes à la télévision par exemple, mais qui est, on oublie, qui a été un grand réalisateur de cinéma aussi. Hein. Moi, j'ai une petite préférence pour Total Western. C'est pas les années 80, mais j'adore Total Western, qui ressuscite Audiard et qui nous donne un film de bourrin comme on les aime, voilà. Mais particulièrement bien mis en scène, avec une prestation incroyable de Jean-Pierre Calfon. C'est peut-être sa meilleure, d'ailleurs. Je l'adore dans ce film, enfin, sa meilleure. J'exagère parce que je l'aime beaucoup chez Granier de Fer aussi, dans Une étrange affaire, où il est bien étrange. Voilà. Donc, le livre... Vous voyez, on parle du livre, on parle de film, tout à coup, voilà. C'est la vocation de ce livre, c'est-à-dire que quand vous plongez dans ce livre, alors déjà, pour ceux qui, comme moi, ont grandi dans ces années-là, dans les années 80, ce qui est intéressant, c'est de voir que le livre est ancré dans le réel, en fait. On s'y retrouve, nous qui avons grandi dans cette époque. C'est-à-dire qu'on aborde tout ça avec acuité, parce que le contexte politique est clairement rappelé, et les impacts des décisions politiques dans le 7e art sont clairement rappelés. Et puis, c'est un livre... Alors, il y a quand même plein de bouleversements. Il y a l'arrivée de la vidéo, toi, dans les années 80. Tous ces sujets-là sont traités. À un moment, il y a aussi les producteurs se cassent la gueule. Il faut trouver des solutions. Donc, le livre, en plus, il peut se lire année par année si on n'a pas envie de lire toutes ces centaines de pages d'un seul coup. Mais son écriture, son découpage, son séquençage, en fait, si j'ose dire, sa cinématographie, parce que c'est un ouvrage qui est cinématographique, c'est assez original la manière dont il est écrit, fait que malgré son foisonnement, le livre est très dynamique, très agréable à lire. Et le livre est doté d'un rythme singulier, un peu comme... Le livre serait un peu comme une partition musicale, c'est assez étonnant. Donc c'est un très beau cadeau que ce Golden 80s de Nicolas Brévière. On est bien loin des livres béatifiants et nostalgiques sur une époque où quand même, on rappelle, le libéralisme s'est imposé et a contaminé alors un cinéma français, un cinéma français dont on découvre qu'il a su aussi habilement... Hein, réinventer son propre modèle. Donc, c'est l'un des livres, en tout cas, les plus étonnants que j'ai pu lire récemment sur le cinéma. Donc, ça s'appelle, on va dire la version courte du titre, hein, Golden 80s de Nicolas Brévière. C'est disponible chez Carlotta Film.
Bye.
vous écoutez Culture Prohibée spéciale sortie bouquin. Je vais glisser des livres sur le cinéma vers le fantastique. Je vais aller chez Faute de Frappe Édition et je vais passer la parole à mon ami Thomas. Mon ami Thomas qui veut passer une nuit avec.
On connaît les causes pour ces verts paysages, ces scotch, single malt, ces châteaux hantés et ces lacs qui ont chacun leur monstre. Mais ils ont aussi leurs écrivains comme Graham Masterton avec qui les éditions Faute de Frappe nous proposent de passer une nuit. Non, il ne s'agit pas d'une proposition indécente car Une nuit avec Graham Masterton est le concept d'une nouvelle collection chez l'éditeur, celui de proposer un recueil de nouvelles inédites d'un auteur différent à chaque volume. Une nuit avec Graham Masterton inaugure donc cette nouvelle et heureuse initiative en proposant 5 histoires inédites du Lovecraft écossais qui s'éloignent cette fois des mythologies des diverses civilisations mondiales qui nourrissaient ses intrigues. Il ne fait cependant pas l'impasse sur sa propension à créer l'effroi, à plonger dans des univers aussi fantastiques qu'inquiétants, en explorant le monde de l'enfance, la peur du noir et les cauchemars qui en résultent. Attention, âme sensible, s'abstenir, en particulier si vous êtes une femme enceinte ou si vous êtes opticien. Graham Masterton, dans ses cauchemardesques hommages aux phobies enfantines, n'abandonne pas son goût pour l'ironie, l'horreur, les descriptions aussi précises que Kraspek. Si le fantastique est bien à l'honneur dans 4 nouvelles, l'une d'entre elles, Observateur, donne dans l'horreur pure et s'avère peut-être la plus éprouvante du volume. Attention, ça pique les yeux, même si cette histoire se révèle aussi horrible que triste, car ces 5 nouvelles mettent aussi en scène des personnages solitaires, empêchés ou affligés par un passé qui les hante. Et s'ils se réfugient dans un autre monde, ça a leurs risques et périls. La tristesse soigne de ces nouvelles, mais dans tous les cas, Graham Masterton conserve bien son sens du mystère. C'est créer un climat angoissant et installer un suspense qui fait que chaque nouvelle se révèle impossible à lâcher et se lit d'une traite. Il décrit avec acuité les traumatismes de l'âge tendre, l'imaginaire des enfants, à donner vie à leurs inquiétudes ainsi qu'à ces mondes qu'ils se créent le soir au fond de leur lit. Si les 5 nouvelles font référence à l'enfance d'une manière ou d'une autre, Le fils de la bête, la dernière du recueil, le fait d'une manière détournée, tout en renouant avec le goût de l'auteur pour les mythes et légendes pour façonner une étrange histoire autour d'un tueur en série particulièrement odieux. À l'exception de cette dernière histoire, où les tentacules reviennent au galop, ce recueil permet de faire connaissance avec une autre facette de l'auteur du Manitou, tout du moins pour ceux qui, comme moi, ne connaissaient que ses romans. Il s'agit ici d'un fantastique plus insidieux, plus en demi-teinte, plus ancré dans le réel et loin des démons et autres créatures tentaculaires et griffues que l'auteur affectionne, où l'imaginaire est partagé entre le merveilleux et l'épouvante. Alors, amis lectrices, amis lecteurs, il ne tient qu'à vous d'accepter cette invitation des éditions Faute de Frappe à passer une nuit avec Graham Masterton, ou 5 d'affilée si vous préférez lire une nouvelle par soir, et prendre le temps de déguster ce recueil comme on se délecte d'un bon single malt.
Mon cher Thomas, je vais rester moi-même chez Faute de Frappe Édition qui décidément nous gâte en ce moment. Je vais pas être dans la collection Une Nuit Avec, mais dans la collection Compact Horreur, la petite collection carrée, la format poche que j'aime beaucoup. Je vous en ai déjà parlé dans l'émission. Hein. Et je vais vous causer de Destination Amityville, qui est signé, devinez qui, David Didlot. Bah oui, pourquoi je dis devinez qui? Eh bien, parce qu'on connaît tous la passion de David Didlot pour la saga Amityville. Hein. Il avait consacré un numéro de vidéo autopsie qui a fait date. date hein, sur le sujet et qui d'ailleurs lui a même valu d'être invité sur France Inter, sur Radio France pour causer de ce phénomène à Amityville. On connaît tous l'histoire de cette célèbre maison hantée dans laquelle les époux Warren, les fameux époux Warren sont intervenus, les époux Warren qui ont donné lieu à, vous savez, à cette série de films malheureusement pas extraordinaire initiée par James Wan, The Conjuring. Bon bah là on n'est pas dans dans The Conjuring, même si on sent que David Didlot connaît très bien son sujet et que comme il a travaillé beaucoup sur le sujet d'Amityville, qu'il a rencontré beaucoup de monde, qu'il a fait beaucoup d'interviews, qu'il a réuni beaucoup de documentation, il a fini quand même par gagner une certaine réputation qui explique sans doute la préface de Chris McKinnell, le fondateur et PDG de la Warren Legacy Foundation, en intro de ce bouquin, même si évidemment la communauté est divisée sur le rôle des époux Warren exactement, mais enfin bon, c'est pas grave, ça fait de formidables personnages de fiction, même si on peut douter de beaucoup de choses racontées par les époux Warren. Disons que le fils fait bien fructifier les différents écrits et propos de la famille Warren. C'est un petit trésor sur lequel il veille jalousement. Voilà. Et David Didlot nous avait pas habitué à ça en fait, parce que le livre fait preuve d'une certaine tempérance. Alors c'est le premier livre non écrit par un anglo-saxon qui est publié dans cette collection, même s'il s'inscrit dans une saga anglo-saxonne, on va dire, hein, mais c'est le premier qui n'est pas justement un livre anglo-saxon, qui est bien un livre français, 100% français, signé David Didlot. Si le livre qui inaugure cette série d'ouvrages sur Amityville, enfin qui a lancé le film et tout ça, est un livre de Jay Hanson, là on est dans un univers un peu différent. Alors même si c'est pas gore, si c'est pas porno comme les précédents écrits de David Didlot ou Denise Didlot, on prend comme on veut, ceux qui sont initiés comprendront ce que je veux dire. Là on s'inscrit quand même dans un livre qui est quand même assez dur, assez violent malgré tout, hein, même s'il est plus tout public que les autres livres de David Didlot, ça reste quand même réservé à un public averti. Et alors, ce qui est bien foutu, c'est qu'il y a plein de références qui parsèment le livre. Si on ne les a pas en tête, ce n'est pas grave. Mais on sent que c'est un érudit de la saga Amityville, l'ami David Didlot. Et il a une idée, une excellente idée, qui est de se rencontrer des gamins du 9-3 et la réalité d'Amityville. Et à travers ces deux univers qui vont se rencontrer, il va parler des classes, puisque c'est une confrontation de deux classes sociales très différentes, puisqu'on parle de pauvres gamins qui sont martyrisés par un père abuseur et qui vont être hébergés par une famille de la haute en fait américaine, par une famille bourgeoise américaine dans cette maison, d'Amityville. Je vous dis pas trop ce qui va se passer, vous vous doutez bien que ça va pas bien se passer de toute façon. Alors même si le livre fait pas trop de cadeaux à ses personnages, hein, David Didlot n'est pas du genre à faire des cadeaux à ses personnages dans ses livres. Il est un peu dur même des fois, parce que je trouve que bon, il y a une certaine Béatrice Malignon. Moi, je n'aurais pas fait subir ce qu'il lui fait subir quand même, parce que c'est un personnage bien sympathique. Hein, voilà. Mais enfin, le livre au final nous emmène tout droit vers là. Bah, on s'attendait à un maelstrom infernal dans la dernière partie de l'ouvrage. En fin de compte, le bouquin se révèle au final assez nihiliste. Hein. Il n'y a pas trop de portes de sortie, malheureusement. Ça sent plutôt la fin du monde, tout ça. Voilà. Donc, en tout cas, nous, on a bien aimé hein, Destination Amityville. Je pense que c'est le bouquin le plus abouti de David Didlot. Peut-être parce que, justement, il n'était pas dans le cahier des charges ni gore, ni érotique, mais qu'il était dans l'idée de construire une vraie histoire horrifique qui s'inscrit dans une autre série, plutôt cinématographique d'ailleurs, celle-ci. Donc du coup, ça donne un bouquin avec un ton assez singulier et intéressant, que j'aime bien. On fait un petit coucou à David parce qu'il est malheureusement il a un souci de santé. On devait parler du livre ensemble. Il n'est pas là aujourd'hui, mais je voulais quand même vous conseiller cet ouvrage, donc, qui s'appelle Destination Amityville de David Didlot et qui est disponible dans la collection Compact Horror chez Faute de Frappe Édition, tout comme Une nuit avec Graham Masterton, donc disponible également chez Faute de Frappe Édition. Je vais rester dans les maisons hantées pour vous parler d'une publication qui est sortie chez le Rayon Imaginaire, d'un livre qui s'appelle Starling House. La maison Starling, hein, voilà tout simplement. Mais c'est Starling House, le titre qui a été choisi en France. Un livre de Alix E. Arrow, qui est une jeune auteure-autrice, on dit comme on veut, voilà. Plutôt en vogue aux États-Unis, pas très connue en France. Donc là, il y a un beau travail de l'éditeur qui essaye de faire connaître cet auteur en France. Et en plus, on va en reparler, mais dans un livre plutôt beau, un bel objet dont il existe plusieurs éditions avec différents packaging, avec jaquette, sans jaquette. Vous achèterez l'édition qui vous paraît la plus belle. Hein. Voilà. Alors, l'histoire est assez simple. Il y a une très belle maison dans un endroit reculé des États-Unis qui ne cesse d'obséder une jeune femme qui s'appelle Opal. Elle passe devant cette mystérieuse Starling House. Elle est comme fascinée par cette maison dont elle a l'impression qu'il y a une sorte de rayon qui la traverse. Il y a une sorte de lumière étrange dans cette maison qui est censée pas forcément être habitée. Voilà. Qui vit dans cette maison, qui est dans ce domaine interdit, dans la petite ville d'Éden. Alors, est-ce vraiment un paradis, ça ? Je vous laisse découvrir l'ouvrage. Et Opal, qui est une jeune femme qui est passée par des moments pas très heureux et qui, entre autres, est très jeune, mais a perdu sa maman, enfin, est obligée de s'occuper toute seule de son frère. Petit à petit, elle va vaincre ses peurs et aller à la rencontre d'un mystérieux personnage qui réside dans cette maison Starling, hein, dans cette Starling House. Alors, il y a toute une première partie de l'ouvrage, c'est un ouvrage assez dense, c'est un gros livre, hein, et il y a toute une première partie qui tourne autour du personnage d'Opal. C'est un personnage qui est pétri de contradictions et qui n'est pas forcément aimable. Donc il faut passer un peu toute cette première partie pour ensuite être complètement absorbé dans la deuxième partie du livre, qui va devenir une sorte de revisite de La Belle et la Bête, avec un aspect social en plus, parce que le personnage d'Opal, c'est un personnage qui, sociétalement, est considéré comme... on la caricaturerait presque comme une électrice de Trump. Vous voyez, c'est considéré comme le lumpen prolétariat. Alors, je sais pas, c'est une ville imaginaire, mais on pourrait être dans la Rust Belt. Vous savez, on pourrait être dans ces endroits de gens qui étaient à gauche et puis qui se mettent à voter très, très à droite, qui ont été abandonnés de tout le monde dans des endroits désindustrialisés avec des maisons abandonnées. Tout ça, d'ailleurs, la Starling House, vieille maison gothique, pourrait être justement... une maison abandonnée, un vestige, et même un vestige d'une certaine littérature gothique américaine, grande tradition chez les États-Uniens. Et dans la deuxième partie, donc cette rencontre avec ce personnage assez taciturne, entre Opal et ce personnage taciturne, va nous donner un livre qui va être dans une ambiance assez gothique, un livre assez particulier, et au final, comment dire, alors... Le livre est très, très beau, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, avec une belle typographie. Enfin, il y a un gros travail de l'éditeur pour que le livre soit très beau. Mais à la limite, le livre n'a pas besoin de ça, parce que la plume d'Alix E. Arrow, elle est élégante, elle arrive à nous accrocher à ce livre, qui est une œuvre quand même assez lancinante, qui est un peu longue à démarrer. Et puis après, alors, qui devient une sorte d'exemple assez rare de... roman de maison hantée romantique, j'ai envie de dire. Voilà, c'est une sorte de vision romantique de ce qu'est le récit de maison hantée. Alors, c'est un peu la limite du livre, c'est-à-dire que le livre n'est pas terrifiant. C'est pas un livre qui va vous foutre la frousse. Par contre, c'est cette revisite de La Belle et la Bête, là, c'est assez original, avec la rencontre de deux solitudes et de deux parias. Voilà, le tout dans ce lieu gothique donne lieu à une confrontation très singulière, très particulière. Moi, ça a été une belle découverte. Donc, je vous invite à lire cette Starling House de Alix E. Arrow, qui est paru donc chez le Rayon Imaginaire.
Mon crâne est posé comme une pomme sur le serpent de ma colonne. La nuit dans cette accoutrement. Je sors du placard à vêtements. Quand vous dormez, je hante les ténèbres. Je me promène en costume de zèbre. Je suis squelette, alors évidemment. Je sors du placard à vêtements. Je suis mort et j'en fais pas un drame. Mon job c'est à la foire du trône. C'est moi qui fais crier les femmes. Je suis squelette, autre un fantôme. Ma femme et son amant Robert ne connaissent pas le remords. Ils coulent une avec persévérance et sans scrupule empoisonné, histoire de toucher l'assurance sans jamais être soupçonné. Je suis mort et j'en fais pas un drame. Mon job c'est à la foire du trône. C'est moi qui
écoutez Culture Prohibée.
Je leur fais mon joli sourire, je leur caresse les cheveux. Elles sont jeunes, la mort les fait rire. Elles sont belles, la mort n'est qu'un jeu. À l'aube, je rase les murs et par les trottoirs parisiens, de peur qu'ils me l'infémur. Je rentre en évitant les chiens. Je suis mort et j'en fais pas un drame. Mon job c'est à la foire du trône. C'est moi qui fais crier les femmes. Je suis squelette, autre un fantôme.
Tout de suite je vais laisser Damien vous parler de différentes BD dont Les Envahisseurs de Marc Dubuisson paru aux éditions Delcourt.
Comme d'habitude, je suis venu avec mes ouvrages sous la main parce que j'aime bien vous en parler en touchant mes bouquins parce que je suis très content de les avoir. Alors, Les Envahisseurs, je vais tout de suite vous faire le résumé. Les derniers survivants de l'effondrement de la planète Mars 843 débarquent sur Terre car ils ont un message à délivrer tiré de leur expérience. Ils viennent tous nous avertir que la vie sur Terre court à sa perte si rien ne change. Mais ils se retrouvent parmi les humains et ils découvrent alors un paramètre qu'ils n'avaient pas prévu, à savoir que la limite de l'intelligence de cette espèce ne va largement pas les aider. Alors, on a affaire à une BD parodique politique. Qu'il faut savoir, c'est que j'adore Marc Dubuisson. J'ai découvert au hasard à travers les différentes pages qu'il postait sur les réseaux sociaux. Les Envahisseurs, c'est son deuxième livre de lui que je lis. Le premier, c'était Le Président Noix de Coco, dans lequel une noix de coco était élue président parce qu'en fait, c'était le seul candidat qui faisait le moins chier les gens. C'était celui qui était le plus apprécié. Et ce qui était intéressant avec le président Noix de Coco, c'est qu'on voyait surtout les gens, la foule, en fait, réagir au final aux interactions du président, le fait qu'il ne dise rien au milieu d'un conflit, le fait qu'il ne dise rien face à d'autres dictatures, le fait qu'il reçoit tout le monde. Et ce qui est intéressant avec Les Envahisseurs, justement, c'est que cette fois, on a l'interaction des aliens, on va avoir un échange avec autrui. Alors, ce qui est cool, c'est que la BD commence sur un effet waouh, c'est-à-dire qu'on va avoir l'événement, les extraterrestres existent, ils rentrent en contact avec les humains, et plus la BD va avancer, plus on va avoir cet effet waouh qui va être dissous, en fait, comme un élément quotidien, et qui va finalement devenir un élément plus que problématique. Alors, nos extraterrestres, ils viennent nous prévenir du danger de la pollution et comment ils ont perdu leur monde à cause de ça. Et ils l'ont surtout perdu à cause de la simplicité et de l'ignorance folle dont ils ont fait preuve alors que tout allait mal. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, au moment où ces extraterrestres arrivent, ces envahisseurs arrivent et qui commencent à parler d'écologie, tout le monde est déçu parce que tout le monde s'attendait à des messages importants comme le fait qu'il existe des communautés intergalactiques, le fait qu'on puisse accéder à plein de connaissances et plein de technologies. En fait, non, c'est juste pour nous dire arrêtez de polluer votre planète, sinon ça va mal finir. Alors, leur nom de leur planète, c'est Mars Zurz, qui a été transformé en Donuts Zurz, parce que le pays dans lequel il est arrivé, dans lequel ils sont arrivés, ils sont tombés sur un président élu par les 33% des 51% des personnes qui ont voté pour lui. Et lors de la réunion pour parler de leur planète, il y avait des donuts sur la table. Il leur a proposé donuts, ils lui ont dit non. Il a proposé assiettes, les envahisseurs ont gardé donuts. Alors, les envahisseurs, c'est un titre qui apparaît très vite dans le bouquin. On va avoir un extraterrestre qui a participé à une émission de radio qui va offrir 45 minutes d'explications claires et concrètes. Et face à lui, il aura le maire de Servelas-sur-Bourg. C'est une ville qui n'existe pas. Et la seule réponse qu'il va pouvoir leur sortir, c'est envahisseur ou plutôt envahisseur. Silence gênant. Alors, l'autre terme qui revient beaucoup, c'est cosmo-migrants, parce que techniquement, ils ne viennent pas de notre planète, et c'est des personnes qui viennent chez nous, et les politiciens, vous savez à quel point ils sont malins, eux, ils se doutent que si des extraterrestres viennent, c'est pas parce que leur monde a été détruit, c'est surtout pour toucher la richesse la plus importante de notre pays, c'est-à-dire les allocations. Et oui, vous avez tout à fait raison. Sachant qu'il y a eu un projet de film avorté, en effet, un réalisateur voulait faire un film, sauf que leur fin du monde, ça s'est pas fait dans des explosions gargantuesques. Non, c'est surtout les inondations et les incendies qui ont mis fin à leur planète. Y compris l'effondrement nucléaire. N'imaginez pas qu'il y ait des champignons nucléaires partout. Non, il y a juste eu une explosion des cancers un peu partout dans la population. Et ça ne va pas aider. Surtout qu'ils vont être pas si bien accueillis. Hein. Alors, je précise que nos envahisseurs, faut pas les confondre avec les féministes. Hein. La différence, c'est que les deux font des réunions non mixtes, mais il y a un groupe qui mange des fœtus humains, l'autre non. Vous avez trouvé, c'était en effet les féministes. Alors, heureusement, ils vont quand même trouver des oreilles attentives, parce que comme ils disent dans la BD, hashtag not all terrien, grâce au capitalisme vert, même si eux, nos envahisseurs, pensent que c'est quand même une escroquerie plus qu'autre chose. Il y a beaucoup de réflexions à l'intérieur de cette BT, comme vous avez pu vous en rendre compte. Mais vous inquiétez pas, à la fin, nos envahisseurs, ils trouvent une place dans notre société. Et quelle belle place, en prison, parce que techniquement, ce sont des sans-papiers en France, donc on ne va pas non plus les laisser se balader un peu partout. Ils sont sur le point d'être expédiés, mais vous inquiétez pas, il leur reste du temps, parce que les forces du Lord essayent de trouver où les renvoyer, et ils savent pas comment s'appelle la capitale de l'Afrique. Donc, ils ont quand même une chance de s'en sortir. Alors, c'est une BD courte, aussi rigolote que déprimante, mais comme c'est annoncé un peu sur la couverture, les envahisseurs nous montrent qu'il n'y a pas de planète B, et que s'il y en avait une, elle serait habitée par des gens qui sont pas ouf. Il y a un dernier détail qui est assez sympathique et qu'on découvre malheureusement qu'à la toute fin de la BD, c'est qu'il y a un QR code à la fin avec une playlist Deezer ou Spotify. Donc si vous découvrez la BD, je vous conseille d'aller voir à la fin. Ça permet de la lire si vous appréciez lire en musique, avec une petite compilation musicale avec de tout dedans. Spirale de Junji Ito. Alors, je tiens dans la main l'intégrale de Delcourt Tonkam. Alors, Spirale, c'est un manga horrifique, iconique, fait par un auteur culte. D'ailleurs, si vous baladez souvent sur Internet, vous êtes peut-être tombé sur des mèmes qui comparent Junji Ito et Miyazaki. Miyazaki est un nihiliste dépressif, alors que Junji Ito est un rayon de joie et de bonheur. Comme quoi, ça prouve que les personnes, selon leurs œuvres, ne ressemblent pas du tout à qui ils sont dans la réalité. Alors, si je vous en parle, même si cette intégrale est sortie depuis un bout de temps, c'est parce que actuellement, enfin en tout cas en 2024, Adult Swim a sorti une série où ils ont adapté, plus un animé, où ils ont adapté en noir et blanc les pages de Spirale, et je trouve que c'est l'occasion de se replonger dans ce monument. Alors, ce monument, il parle de quoi ? Kiri Koshima vit dans une petite ville de Kuruzu. C'est une lycéenne tout à fait normale, mais le père de son petit ami commence à se comporter de manière assez inquiétante. Il est obsédé par l'observation d'objets en forme de spirale. Cette forme se fait de plus en plus présente dans la petite ville, comme si elle était sous l'effet d'une malédiction. Alors, ce que j'adore chez Junji Ito, c'est tout la thématique de l'obsession. C'est-à-dire que pour lui, l'obsession, c'est une façon de perdre absolument tout sens commun d'un coup et de devenir justement follement obsédé par un élément. C'est quelque chose qu'on retrouve dans une autre de ses œuvres, Tomie, où cette fois, c'est une jeune fille au nom éponyme, Tomier, qui rend fou tous les hommes, follement amoureux d'elle au point qu'il la massacre parce qu'il essaye de repartir avec des bouts d'elle. Ici, il reproduit ce même effet d'obsession, sauf qu'il le fait à l'échelle d'une ville, à travers le phénomène de la spirale, et c'est un phénomène qui va toucher les gens, et y compris la nature. Par exemple, très vite, dans le bouquin, on a des bourrasques. D'ailleurs, dans l'animé d'Adult Swim, le ciel est animé en reprenant un peu la nuit étoilée de Van Gogh, pour avoir cet effet de spirale dans le ciel. On a aussi ces bourrasques qui vont devenir avec le temps des tornades, ce qui va avoir tendance à détruire les baraques. D'ailleurs, les baraques vont être construites au bout d'un moment en spirale, tout à tourner en rond. Le phare, si vous l'observez trop longuement la nuit, au cours de la journée, quand vous allez vouloir vous déplacer, vous allez vous mettre aussi à tourner en rond, alors que vous voulez aller dans une direction tout à fait à l'opposé. C'est impossible de parler aussi de Junji Ito sans parler de son côté body horror. On a notamment un chapitre avec des cheveux qui se mettent à pousser, à devenir ondulés, enroulés, à avoir leur propre vie. D'ailleurs, je me suis rendu compte, c'est un sticker ce que j'ai sur mon ordinateur et qui est magnifique. Autre chose qu'on va retrouver, les limaçons, qui sont en fait des êtres humains qui commencent à se transformer en escargots, d'abord en bougeant au ralenti, puis en ayant une carapace qui va commencer à leur pousser dans le dos. On va avoir des corps qui vont s'étirer puis s'entremêler. Et le personnage qui représente le mieux ce changement de physique, c'est Azami. Je ne peux pas vraiment lui dire ce qu'elle devient, mais elle est très liée au tourbillon. Alors, tourbillon qui est néfaste, toute personne rentrant dans le village se retrouve pris au piège et souffre de ce sort. C'est une œuvre vraiment obsessionnelle, qui a quelque chose de très déformant au niveau de la réalité et qui offre quasiment aucun échappatoire. Spirale de Junji Ito, c'est un classique vers lequel on revient comme si on était pris vers lui, comme dans une spirale.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et Radio Graphite. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demey, dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard, and The Last But Not The Least. Je veux bien sûr parler de Léomanien à la technique. Salut les gens, à la prochaine.